Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens aboient, et Willy, le vieux Willy, écrit. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue ma tristesse et mes ennuis. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue mes fucking soucis, j'ai raté ma vie. Ce n'était, semble-t-il, qu'une question de seconde. Elle ne tient qu'à un fil, notre place dans ce monde. Au détour d'une peine, je me suis égaré. Si loin qu'on se souvienne, ma mémoire est cassée. Mes amours étaient belles, mais tout me les rappelle. Encore le labyrinthe, le destin qui m'esquinte. Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Ne soyez pas trop triste pour la fin de ma piste. Tous mes os me font mal, ils m'attaquent en chacal, en combat inégal. Ouch! Ah! Un peuple de démons, de fantômes en sommeil, se cacherait-il au fond de toutes mes bouteilles? Je suis si vieux, et où sont mes petites vieilles? Pour ma part, il me tarde de partir en voyage, quitter cette famille de terreur qui fourmille. Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux.
Au loin, les flammes. Au loin, les flammes.
Hein, regardez là-bas. C'est la cabane à Willy.
Au loin, les flammes.
Ça brûle.
Au loin, les flammes. Au loin.
Et au vent qui en aimera la fumée de ma cabane en bois, je lègue ma philosophie et aussi toutes mes idées de génie. Et enfin à toi, le passant qui passera, je te lègue ma porte au bas. Je te préviens tout de suite, l'amour n'existe pas. Au loin les flammes. Au loin les flammes. Au loin les flammes. Au loin les flammes.
Vous êtes toujours à l'écoute du Quotidien des Quotidiens. On vient d'entendre Jean Leloup et extrait de son album À Paradis City. C'était la pièce Willy.
Actualité culturelle, en raison d'une épidémie de grippe qui afflige les membres du groupe Bon Jovi et son équipe, les spectacles qui devaient avoir lieu ce soir et demain au Centre Bell sont reportés. Le promoteur Evenco en a fait l'annonce sur sa page Facebook en précisant que les deux spectacles ont été reportés les 17 et 18 mai prochains. Les billets du 4 avril seront honorés le 17 mai, ceux du 5 avril le 18 mai. « Dans le Journal de Montréal, l'effet District 31, la dramatique signée par Luc Dionne en bonne position au Gala Artistes. Du côté des séries dramatiques annuelles, les comédiens du drame policier de Luc Dionne, Magali Lépine-Blondeau, Hélène Bourgeois-Leclerc, Vincent-Guillaume Otis, Luc Picard et Gildard Roy, accaparent la moitié des nominations en interprétation. La quotidienne de Radio-Canada est tellement aimée des téléspectateurs qu'elle permet à certains acteurs de s'illustrer dans plusieurs catégories. Gildard Roy peut ainsi se vanter d'être trois fois finaliste, non seulement pour District 31, rôle masculin série dramatique annuelle, mais pour Lâche et prise, rôle masculin comédie, et Marche à l'ombre, rôle masculin série dramatique saisonnière, deux fictions dans lesquelles il tient pourtant un rôle fort secondaire. Sans rien enlever à Marche à l'ombre, gageons que cette offrande de Francis Leclerc, présentée de manière beaucoup plus confidentielle à super écran, n'aurait jamais réussi à tirer son épingle du jeu au prix Artis sans profiter de l'effet District 31. Vice-président exécutif et associé chez Léger, la firme chargée de déterminer les gagnants en menant des sondages auprès de 8000 francophones, Christian Bourque parle d'une aura qui dépasse la catégorie. Il mentionne également Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? C'est lui l'auteur de ce livre-là. Alors, il s'appelle Pierre-Yves McSween, qui n'aurait peut-être pas décroché une nomination comme animateur des missions de service pour l'indice McSween à Télé-Québec sans avoir participé aux émissions de radio très écoutées de Paul Arcan et de Paul Hood. Les nominations du Gala Artis reflètent également les autres phénomènes télévisuels de 2017-2018. Ludivine Reding et Claude Legault s'illustrent grâce à Fugueuse. Guylaine Tremblay, Ève Landry et Mathieu Baron rayonnent grâce à Unité 9 et Charles Lafortune représente La Voix et La Voix Junior, sans compter Lâcher Lousse. Signalons aussi les quatre nominations de Boomerang. Nouveauté cette année, les finalistes au prix de personnalité féminine et masculine de l'année seront dévoilés lors du gala qui sera diffusé à TVA le dimanche 13 mai. Quant au contenu du rendez-vous, le metteur en scène et réalisateur Jean-François Blais désire mettre la pédale douce sur l'humour pour favoriser les numéros de variété et l'émotion. Les animateurs Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion ne tenteront pas d'imiter Louis-José Houd en enfilant les blagues en ouverture de cérémonie. La prochaine édition du Festival en chansons de Petite-Vallée, dont Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur sont porte-parole, atteint la parité homme-femme dans la catégorie grand spectacle. Sur 19 artistes participants, 9 sont des femmes, dont Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Marjo, Laurent Jalbert, Brigitte Boisjoli et Claude Pelgag. Louis-Jean Cormier avait créé une petite controverse en prenant position contre la parité homme-femme dans les festivals dans une rubrique hebdomadaire de la Presse Plus. « Je suis content que le débat soit lancé. » Je vais laisser la parole aux femmes parce que je crois que ce sont elles qui doivent en parler. Les gars, nous sommes là pour les écouter. Mais je suis très, très content d'avoir bien, malgré moi, lancé le débat, a-t-il dit lors de la conférence de presse hier à Montréal. Le directeur du village en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, a souligné que la campagne de financement pour la reconstruction du théâtre de la Vieille Forge a atteint 1 719 000 $. En attendant le nouveau théâtre, les spectacles auront lieu sous chapiteau. Parmi les autres artistes invités du festival qui aura lieu du 28 juin au 7 juillet, il y a Jean-Pierre Ferland, Paul Darèche, Fred Fortin, Yann Perrault et Philippe Braque. Dans une entrevue accordée hier à l'émission radiophonique le 15-18, le producteur Christian Larouche a annoncé son intention de porter à l'écran le troisième tome de la série de romans « Les filles de Caleb » d'Arlette Cousture en deux longs métrages. Catherine Léger, qui a notamment signé le scénario de Charlotte à Dufaune et qui a été confiée et à qui a été confiée l'adaptation québécoise de la populaire série française 10%, sera chargée de l'écriture du scénario. Campé entre les années 60 et 90, le récit serait construit autour des vies d'Élise et Micheline, les deux filles de Blanche, elles-mêmes filles des célèbres Émilie Bordelot et Ovila Pronovo. Pascal Bussière devrait reprendre son rôle de Blanche, mais les autres noms de la distribution n'ont pas été dévoilés. Le projet sera bientôt déposé aux institutions et si tout va bien, le tournage pourrait commencer d'ici un an. Festival du Jamais lu. Du 4 au 12 mai, le 17e Festival du Jamais lu propose au public de désobéir par humanité et de multiplier les échanges tout en étant de très mauvais marchands. Sur le thème « Manifester le fragile », Marcel Dubois et Solène Paré ont préparé une fête qui offrira la lecture des nouvelles créations d'Anne-Marie Olivier, Amélie Dallaire, Catherine Dorion et Marjolaine Beauchamp, en plus de nous faire découvrir des artistes de la relève de France et du Liban. L'Arrêt Tremblay donnera aussi une classe de maître. Chaque lecture sera de plus précédée de manifestes du fragile écrits par des artistes comme David Paquet, Félix-Antoine Boutin, Natacha Canapé, Fontaine et Aurélie Langteau. Le festival a lieu dans les espaces du théâtre aux Écuries. Frisson garanti, la Place des Arts présente à compter d'aujourd'hui jusqu'au 29 avril le Printemps nordique, une vitrine de spectacles de danse, musique, théâtre, cirque et littérature, ainsi que nombre d'activités gratuites en provenance du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède. Avec 85 artistes invités, la Place des Arts assume ce printemps le pari de la nordicité, un mot très québécois évoquant tout autant la réalité des pays scandinaves. La directrice de la programmation, Clotilde Cardinal, confie qu'elle a éprouvé quelques frissons au contact des œuvres de ces artistes venus du froid. Après les disparitions de Jacqueline Desmarais et d'André Bourbeau, le monde de la musique classique pleure la disparition samedi d'Huguette Dubois, 78 ans, indissociable épouse de Roger Dubois de Canimex. Ensemble, Huguette et Roger Dubois sont des piliers de la scène musicale québécoise. Canimex soutient notamment le Concours de musique du Canada, l'Orchestre symphonique de l'Agora, le Quatuor Claudel Canimex, le Festival Bach et de nombreux musiciens individuellement par l'entremise de la plus imposante banque d'instruments du Canada. C'est au travers de cette fondation que M. et Mme Dubois sont à l'origine du prêt de l'Octobasse à l'OSM. Huguette Dubois est la mère de la pianiste Anne-Marie Dubois. La 5e édition du petit festival musical La Grosse Lanterne n'aura pas lieu cet été. Les organisateurs ont annoncé sur la page Facebook de l'événement avoir décidé de prendre une pause afin de réfléchir à la formule et revenir avec une édition repensée en 2019. Le festival est installé depuis 2014 sur un site hors des sentiers battus, dans la forêt de la petite ville de Béthanie, en Montérégie. L'événement, dont la programmation est assurée par l'étiquette Bandsound, s'est associé en 2017 avec Mishmash, collectif expérientiel dont font entre autres partie le pique-nique électronique et l'étiquette La Tribu.
Glasses.
Retour en 1994, Daran et les chaises, dormir dehors.
Sujet libre. Alors, je vais lire une lettre de Nelson Tardif, artiste en art visuel et travailleur autonome, dans Le Devoir d'aujourd'hui, une lettre datée du 2 avril 2018. Un dépotoir nommé Montréal, point d'exclamation. Chers touristes, croyez-le ou non, une agglomération de près de 2 millions d'habitants croule sous les déchets. En effet, les trottoirs et les rues de la métropole québécoise, Montréal, sont jonchés de rebuts de toutes sortes. Élastique bleu des postiers, courroies de plastique des publisacs, verres à café issus de la restauration rapide, canettes de bière, sacs de plastique, paquets de cigarettes vides et autres détritus qui devraient se retrouver au recyclage ou au dépotoir sont monnaie courante dans les rues de Montréal. Où est passée la fierté des Montréalais? Ensevelie sous les déchets? À quand une véritable politique montréalaise de la propreté de la ville? Compte tenu de la situation, nous vous conseillons d'autres destinations touristiques plus invitantes pour le regard. Malgré tout, si vous choisissez Montréal comme destination vacances, n'oubliez pas de ramener dans vos valises quelques pittoresques déchets, souvenirs inoubliables garantis. Le nom de Colborne, rayé de la carte, la ville de Chambly était la seule au Québec à honorer dans sa toponymie, le militaire britannique qui a réprimé la rébellion des Patriotes. C'est un article de Suzanne Colpron dans la presse. Sir John Colborne, la décision du maire de Chambly, Denis Lavoie, de débaptiser une rue et un parc portant le nom de ce militaire britannique qui a maté la rébellion des Patriotes soulève une petite tempête. Le parc et la rue Colborne porteront le nom Ostigui et l'actuelle rue Ostigui s'appellera dorénavant Petrosa, en hommage au fondateur d'un restaurant de Chambly, ville de près de 30 000 habitants en Montérégie. Résultat, le Mouvement citoyen de Chambly, MCC, a déposé hier soir à la séance du conseil municipal une pétition de 2 400 signatures opposées à ces changements. Des citoyens contestent la disparition de la rue Colborne et le déménagement de la rue Ostigui. Et des commerçants se plaignent d'avoir des coûts assumés, nouvelles cartes professionnelles, nouveaux lettrages sur les camions, etc. Bref, une décision qui fait beaucoup de mécontents. Mais une décision qui ne changera pas, s'il faut en croire, le maire Lavoie élu avec une confortable majorité en novembre dernier pour un quatrième mandat. Des gens disent qu'il ne faut pas occulter l'histoire. Je m'excuse, il n'y a pas de rue Adolf Hitler en Israël, à ce que je sache, ni de rue Robespierre en France, ou de rue Pol Pot au Cambodge, dit le maire de Chambly. Le rôle de Colborne dans la rébellion des Patriotes n'est pas glorieux. Même les Anglais ne sont pas très fiers de lui. Je ne vois pas pourquoi je devrais l'honorer, lance Denis Lavoie, le maire. Au Québec, selon le répertoire toponymique, seul Chambly honore encore la mémoire de Colborne. À Montréal, l'avenue qui portait son nom a été rebaptisée Avenue Delorimier en 1883. Il y a bien une impasse du Lady Colborne à Gatineau, mais elle fait référence au bateau, le Lady Colborne, nommé en l'honneur de la femme du commandant, Elizabeth Yonge. Cela dit, Sir John Colborne n'est pas le premier militaire britannique mal aimé à être visé par un changement de nom. L'ex-maire de Nicodère avait déclaré l'an dernier vouloir faire disparaître le nom de Jeffrey Amherst de la toponymie montréalaise. « Je ne pense pas qu'on puisse célébrer quelqu'un qui voulait exterminer des Autochtones. Goodbye, Mr. Amherst », avait-il dit. Qui est Sir John Colborne? Né le 16 février 1778 en Angleterre, Colborne était un militaire de carrière. Il s'est illustré très jeune en Égypte et à Malte, et a combattu pour la couronne britannique à Waterloo lors de la défaite de Napoléon en 1815. Nommé lieutenant-gouverneur du Haut-Canada en 1828, il est surtout connu ici pour avoir maté la rébellion des Patriotes dans le sang. À la tête de 2000 hommes armés en décembre 1837, Colborne a fait bombarder les villages de Saint-Eustache et de Saint-Benoît, incendier les maisons et condamner des patriotes à la pendaison. Quel rôle a-t-il joué dans l'histoire? C'est un personnage de très haut niveau dans la colonie, à la fois dans le Haut et le Bas-Canada, indiquait l'historien Yvan Lamonde, professeur émérite à l'Université McGill. Il est connu pour son commandement militaire et ses répressions dans la vallée du Richelieu. Sa conduite durant et après la rébellion lui a valu le surnom de Brûlot. Colborne était considéré par les citoyens du Bas-Canada comme un symbole de brutalité, de fanatisme anglo-saxon et d'anti-catholicisme. Pourquoi rayer son nom de la carte? Selon Martin Paquet, historien et professeur à l'Université Laval, c'est une question de sensibilité. Sensibilité est écrit ici au pluriel. Colborne a commis des actes qui ne correspondent pas aux valeurs contemporaines. C'est un peu normal qu'on relise le passé, dit-il. Mais il faut fournir aux gens les éléments et les informations pour justifier une telle décision. Est-ce qu'on honore quelqu'un dont la contribution à l'histoire est contestable? On peut s'en souvenir sans l'honorer. Comment expliquer le débat? Le maire de Nillavois se doutait bien que la décision d'effacer la mémoire de l'officier britannique de la toponymie de Chambly ne ferait pas l'unanimité. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle suscite un aussi vif débat. Il a été surpris de recevoir autant de demandes d'entrevues de médias québécois et canadiens. Selon Patrick Dufresne, candidat défait aux dernières élections sous la bannière de Démocratie Chambly, le problème vient du fait que le maire n'a pas consulté les citoyens avant de prendre sa décision. Les gens ont reçu une lettre. C'est comme ça qu'ils ont appris les changements de nom de rue, avance-t-il. Est-ce une bonne décision? L'historien Yvan Lamonde croit que oui. Il est d'accord avec le maire Lavoie et son équipe. Les propos du maire au sujet d'Adolf Hitler sont forts, dit-il, mais ils font bien comprendre la situation. S'il y a un ennemi actif du Bas-Canada, c'est bien Colborne. Ça ne m'offusque pas qu'on veuille faire disparaître son nom. Ce qui m'importe toutefois, c'est que le débat se fasse dignement. Vestiaire Sportif, l'entreprise québécoise excentrique, s'est donnée comme mission de créer un produit antidouleur qui soit efficace, naturel et facile à utiliser. Après plusieurs années de travail, c'est plutôt une gamme complète de produits qu'elle propose, Novarnica. Depuis l'automne dernier, on peut retrouver les 5 produits de la gamme Novarnica sur les rayons de la majorité des pharmacies. Il s'agit d'un vaporisateur antidouleur pour le sport, d'une crème et d'un vaporisateur antidouleur pour les maux du quotidien, ainsi qu'une crème et d'un vaporisateur antidouleur pour les pieds. Tous les produits ont en commun la présence dans leur formule d'Arnica montana, une plante qui serait reconnue pour son efficacité dans le traitement de plusieurs affections, ainsi que ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Son emploi permettrait de soulager les douleurs rhumatismales, musculaires et arthritiques, les courbatures et muscles endoloris, et pourrait aider dans le traitement de certaines blessures, comme les entorses. Après une chute ou un coup, vaporiser le produit pourrait atténuer ou même éliminer l'apparition d'ecchymoses. C'est un article d'Evelyne Audet. Les produits Novarnica sont tous de source entièrement naturelle. Ils contiennent une forte concentration d'arnica qui est combinée à du menthol, du camphre, de l'eucalyptus et pour certains produits du girofle et de l'aloès. Sa formule extra puissante contient 20 % d'arnica, ce qui, selon l'entreprise, serait la plus haute teneur actuellement vendue sur le marché. Nous avons aimé, nous avons fait une utilisation répétée des 5 produits que nous avons tous trouvés efficaces. Seule une petite quantité est nécessaire. La sensation est immédiate et l'effet persiste assez longtemps. Nous avons moins aimé. À l'exception des 2 produits pour les pieds, nous ne saisissons pas la différence entre les 3 autres qui offrent tous le même soulagement et qui ont une liste d'ingrédients très semblables. Notre verdict, la gamme Novarnica s'avère tout de même un excellent compromis pour la santé, avec beaucoup moins d'ingrédients chimiques ou artificiels que la majorité de ses concurrents, Les produits sont efficaces et très abordables, alors nous serions prêtes à les utiliser de nouveau. Ça complète le quotidien des quotidiens édition du mercredi 4 avril. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous souhaite à vous une très belle journée avec ou sans pluie. On se retrouve dans quelques minutes si vous nous écoutez en direct avec les paractualités et aussi demain si vous nous écoutez sur Internet. À bientôt.